La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Vous avez besoin de louer un appartement mais ce n'est pas simple hein, compte tenu de tout ce qu'il y a à payer en amont notamment. Pourquoi ne pas louer sans frais d'agence et sans garant, ça existe. Et c'est la solution que propose Wheezy, Elisabeth.
Oui, parce que quand on loue un appartement, on peut signer hein, effectivement le contrat directement entre particuliers. Mais parfois, on vous réclame, notamment les agences, elles vous réclament des garanties. Hein. Il faut un CDI, gagner jusqu'à 3 fois parfois le montant du loyer, des sommes très importante, ce qui entraîne parfois, pour certains, hein, ça existe, des fausses fiches de salaire pour pouvoir obtenir, hein, décrocher cette location. Wheezy existe depuis 2017 et cette start-up joue le rôle de tiers de confiance, en quelque sorte, entre les propriétaires et les locataires. La start-up se rémunère sur les services rendus, hein, comme par exemple l'état des lieux ou la signature du bail, en prélevant un pourcentage du loyer. Pour le locataire, le service est gratuit. Il n'a qu'à payer le dépôt de garantie sur la plateforme. Bonjour Julien Lozano.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Vous êtes le cofondateur de Wheezy. Alors, ça vous est venu comment cette idée de Wheezy? C'était partie d'une expérience personnelle?
Alors, oui, j'ai surtout découvert un marché que je ne connaissais pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait 6 millions de logements dans le parc privé détenus par 2,8 millions de propriétaires bailleurs et surtout qu'il y avait près de 2/3 de ces bailleurs qui traitaient de particulier à particulier. Mmh. Et je me suis surtout rendu compte que quand ils choisissaient de traiter de particulier à particulier, souvent ça fonctionnait plutôt mal.
Mmh, parce qu'on exige énormément de
oui,
choses.
Oui, je crois que le locataire et le propriétaire ont peur, et quand on a peur, en fait, on fait des bêtises.
Alors vous êtes venu pour justement arrêter cette peur, que proposez-vous?
Alors nous, on propose une solution donc, qui s'appelle Wheezy, qui est une plateforme 100% digitale, qui va permettre aux locataires et aux propriétaires de sécuriser et de simplifier toutes les étapes de leur location immobilière longue durée, de particulier à particulier.
Alors, par exemple, si j'ai trouvé un appartement, un 2 pièces, que je souhaite louer, en quoi allez-vous m'aider?
Alors, la première étape sur Wheezy, c'est de créer une annonce. Donc, cette annonce, elle est créée sur Wheezy. Elle va être multidiffusée.
Je crée une annonce de recherche?
Non, non. Vous créez une annonce si vous cherchez un locataire. Donc, si vous
d'accord.
êtes propriétaire d'ailleurs d'un appartement.
Donc, ça s'adresse au propriétaire, Wheezy.
Alors, ça s'adresse au propriétaire et au locataire. En fait, on s'est rendu compte que et le locataire et le propriétaire avaient des difficultés. Donc, on a voulu créer un outil qui permettait d'y répondre.
Donc, si je trouve un appartement, que je souhaite le louer, comment allez-vous m'aider?
Alors, si je suis locataire, que je trouve un appartement sur Wheezy, on va me demander un certain nombre d'informations, de profils, donc notamment quels sont mes revenus, quel est mon statut, par exemple. Et en fonction de ça, on va vous mettre ou non immédiatement en relation avec le propriétaire bailleur. On a des critères qui sont très larges et qui nous permettent notamment d'adapter notre sélection aux réalités du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les locataires ne sont pas en CDI depuis plus de 10 ans et gagnent plus de 3 fois et demi le loyer.
Alors, pour vous, c'est gratuit à l'entrée. Ensuite, vous prélevez entre 5,9 et 7,9
%
du loyer. C'est beaucoup ou pas par rapport à une agence traditionnelle?
Alors, disons que si vous passez par une agence immobilière en tant que propriétaire bailleur, l'agence va vous facturer en gros un mois de loyer à la mise en place, c'est-à-dire à la signature du bail et à l'état des lieux d'entrée, puis va vous facturer entre 8 et 12% pour gérer le bien, c'est-à-dire éditer les avis d'échéance, les quittances de loyer, les rapports de gérance. Chez Wheezy, la mise en place est 100% gratuite pour le propriétaire, mais tout simplement parce qu'il le fait lui-même, c'est-à-dire qu'on donne des outils pour le faire, c'est 100% gratuit pour le locataire, puis on prélève effectivement un pourcentage qu'on appelle chez Wheezy des frais de service et qui vont notamment nous permettre de garantir le bon paiement des loyers aux propriétaires. Puisqu'on s'est rendu compte, en fait, que là où le bât blesse, c'est que les propriétaires ont peur. Ils ont peur de ne pas être payés en temps et en heure. Et ils ont peur surtout de la dégradation.
Marie, notre coach, comment vous faites pour garantir le bon paiement, justement?
Tout simplement, on travaille avec un assureur qui est notre partenaire et qui va nous permettre, effectivement, de nous contre-garantir. C'est-à-dire que nous, on a une vraie obligation de résultat pour la simple et bonne raison qu'on garantit le bon paiement le 5 du mois à nos propriétaires bailleurs. Donc nous, on avance, en fait, ce montant. Et après, on va le recouvrer auprès de nos locataires.
Donc vous êtes davantage à destination des propriétaires?
Alors non, puisque le locataire, lui aussi, il a des problématiques. Mmh. C'est-à-dire la problématique de tomber sur des annonces qui sont frauduleuses, la problématique de tomber sur des propriétaires véreux, la problématique de signer des contrats de location qui ne sont pas en bonne et due forme, la problématique de ne pas récupérer son dépôt de garantie à l'issue de la location. Wheezy apporte une solution à chaque étape de la location et pour le locataire et pour le propriétaire.
Et est-ce que vous faites également la partie gestion? C'est-à-dire, je suis locataire, j'aimerais que mon propriétaire règle un problème
de chaudière
ouais. ou autre. Est-ce que vous pouvez...
Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on met à disposition un système de tickets qui va permettre de gérer, effectivement, quand il y a un sinistre ou quand il y a une réparation à faire. En revanche, nous, on ne veut pas et on ne sera jamais un acteur physique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je peux envoyer un agent physiquement vérifier que la chasse d'eau fuit ou que le ballon d'eau chaude s'est mis en sécurité.
Il y a quelques concurrents sur le marché, sur ce même marché?
Alors, il y a des concurrents sur le marché, évidemment, donc sur le marché du particulier à particulier, qui apportent des solutions, mais ces solutions sont partielles. C'est-à-dire, je vais trouver une solution pour mettre une petite annonce, je vais trouver une solution pour signer un bail en bonne et due forme, je vais trouver une solution éventuellement, si je passe par mon agent général d'assurance, pour garantir mes loyers impayés, mais je n'ai pas une solution complète qu'on appelle une plateforme end-to-end.
Depuis 2017, vous avez déjà traité combien de dossiers?
Alors cette année, on va encaisser et sécuriser 3 millions d'euros de loyers.
Ça fait combien de...
Ça fait à peu près 800.
800.
Sur l'année.
Merci beaucoup d'être venu nous présenter Wizi, W-I-Z-I, avant qu'on me demande comment ça s'écrit. Voilà, vous le savez, c'est la plateforme qui vous permet effectivement de simplifier toutes les démarches entre particuliers pour louer un appartement. Merci d'être venu nous la présenter sur Europe 1.
Il est midi 57.
Europe 1.
On reste ensemble et si vous êtes diabétique et que vous vous posez des questions sur cette maladie, c'est le moment de nous contacter 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Nos invités travaillent pour que le quotidien des patients s'améliore. C'est la France qui bouge à grands coups d'innovation. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on a à cœur de vous montrer qu'il y a des tas de choses qui changent autour de nous et qui font avancer notre pays. Et c'est vous qui êtes derrière avec vos idées et vos projets. Aujourd'hui, c'est de diabète et d'innovation qu'on a choisi de vous parler car c'est la journée mondiale et que dans ce domaine aussi, il y a de grandes avancées. Bonjour Sébastien Pelletier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire de Valbiotis et vous développez Valedia. C'est un complément alimentaire, nouvelle génération, qui vise à réduire le risque de diabète de type 2. Je vais tout de suite me tourner vers Elisabeth d'ailleurs. Le diabète de type 2, c'est différent, Elisabeth, du diabète de type 1.
Oui, il y a deux types de diabète. Vous avez le diabète de type 2 qui concerne près de 90% des cas, il correspond à une hausse prolongée du taux de sucre dans le sang. Il est souvent associé à l'obésité, au mode de vie comme la sédentarité ou une alimentation très riche en graisse. Vous avez le diabète de type 1. Lui, il apparaît le plus souvent de manière très brutale chez l'enfant ou le jeune adulte. C'est une maladie, une sorte de maladie auto-immune dans laquelle l'organisme attaque les cellules du pancréas qui fabriquent l'insuline. Il faut savoir que le diabète de type 1 est en expansion dans les pays développés et en particulier chez les enfants. L'âge médian est descendu de 12 à 8 ans en 15 ans et un quart des cas ont moins de 6 ans.
C'est dire s'il est important de travailler effectivement sur des solutions. Sébastien Pelletier, vous avez travaillé dans l'industrie du médicament et dans celle du complément alimentaire. Et vous avez notamment, un doctorat en biologie et vous vous êtes intéressé aux maladies métaboliques. Or, le constat est simple, si je résume, on a un stade avant le diabète de type 2 qui est une sorte de pré-diabète avec des signes et rien n'existe pour ces patients-là.
Oui, tout à fait. Le diabète de type 2, en fait, dans la majorité des cas, on dit qu'il est irréversible. On sait améliorer la qualité de vie des patients, retarder les complications, et c'est déjà très bien. Et en fait, juste avant le diabète de type 2, il existe un état qui s'appelle le pré-diabète, qui est facilement diagnosticable. Il correspond à une élévation légère à modérée du taux de sucre dans le sang, que ce soit le matin à jeun ou après un repas. Et en fait, quand on sait qu'on est pré-diabétique, alors... D'un côté,
on peut le savoir avec une
prise de sang. Donc le médecin peut facilement diagnostiquer l'état de prédiabète avec une très bonne nouvelle pour le patient, mais aussi pour le médecin, c'est qu'il y a une possibilité de revenir en arrière. Concrètement au diabète de type 2, où dans la plupart des cas, on ne sait pas revenir en arrière. Donc quand on est prédiabétique, on a un vrai signal d'alarme qui nous dit si finalement on va changer notamment notre mode de vie, potentiellement on peut soit revenir en arrière, soit reculer l'apparition du diabète de type 2.
Vous vous apercevez qu'on peut agir sur ce prédiabète. Entre-temps, il y a une bonne nouvelle, c'est que la législation en Europe change et qu'elle va vous permettre donc d'avancer pour que ces personnes ne viennent pas rallonger la liste.
Oui, complètement. Il y a une nouvelle réglementation qui a été actée, que ce soit en Europe, on a également ça en Amérique du Nord, et en fait qui permet pour la première fois de positionner des produits, en particulier des compléments alimentaires, alors d'une nouvelle génération, justement sur le risque de maladie. Et pour positionner ces produit. Pour obtenir les autorisations des autorités européennes et nord-américaines, il faut développer comme un médicament pour démontrer la sécurité et l'efficacité sur des populations prédiabétiques.
Alors, vous commencez les recherches en 2014.
C'est ça.
Et vous levez des fonds.
C'est ça, on commence les recherches en 2014, on fait une belle première levée de fonds de 1,8 million d'euros qui nous donne vraiment les moyens en fait de continuer nos travaux de recherche et développement.
Avec La Rochelle et avec Clermont.
Hein. Exactement, en collaboration avec l'Université de La Rochelle, le CNRS et l'Université de Clermont-Auvergne. Et aujourd'hui, on est en fin 2019, oui. On a validé une première étude d'efficacité sur des populations prédiabétiques et on a internalisé en grande partie la recherche et le développement puisqu'on a notre propre plateforme et en termes de levée, on arrive à un peu plus de 30 millions là, à la fin de cette année.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce complément alimentaire? Vous avez un mélange de plantes, d'extraits de plantes?
Oui, alors on a revisité en fait la physiopathologie hein, du diabète de type 2. Diabète de type 2, obésité, maladie cardiovasculaire, ce sont des maladies qui sont extrêmement complexes, qui ne vont pas toucher qu'un seul système dans l'organisme, mais plusieurs systèmes. Et on pense que pour essayer de prévenir ce type de pathologie, il faut probablement apporter plusieurs molécules en même temps. Donc on a fait le choix des plantes, parce que par définition, une plante, en fait, c'est un assemblage de molécules. Donc on combine des plantes, mais en fait, derrière, on combine des molécules avec un rationnel scientifique pour obtenir une nouvelle classe de produits, finalement, basée sur le végétal.
Et qui vont venir agir sur le taux de glycémie.
Exactement. On a validé notamment dans l'étude clinique qui s'est finie cet été un effet sur la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang à jeun, mais aussi après un repas et avec un effet sur le poids et le tour de taille.
De quel ordre ?
Alors sur la glycémie, on a un effet de l'ordre de 9% par rapport au placebo, 20% par rapport pour la versus placebo par rapport au placebo sur la glycémie après un repas. Et puis on arrive à stabiliser le poids, en fait, à faire en sorte que les personnes ne prennent plus de poids.
Que dit notre coach avec le micro bien face à elle, Marie Sermadiras?
Quand est-ce que vous allez lancer?
Alors c'est une bonne question.
L'année prochaine.
Alors.
Peut-être.
Notre objectif maintenant, c'est on doit réaliser d'autres études cliniques en parallèle en Europe et en Amérique du Nord sur davantage de personnes. Et juste après, on pourra lancer potentiellement le produit. Et là, on est dans une phase de recherche de partenaires à la fois pour nous accompagner dans le financement, dans le développement et dans la préparation de la mise sur le marché du produit. Alors en Europe, en Amérique du Nord, mais globalement dans le monde entier.
Ça nous emmène à une échéance de...
Le produit pourrait être sur le marché d'ici 2021.
Ok. Et vous souhaitez le distribuer comment? Ça sera la prescription médicale qui vous aidera le plus ou ça sera une vente en direct?
Alors ça peut être une vente en direct dans certains pays. Le business model majoritairement c'est professionnel de santé, donc les médecins qui conseillent le produit disponible en pharmacie, drugstore ou équivalent dans les différents pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui on discute avec des partenaires qui sont plutôt des laboratoires pharmaceutiques ou des sociétés comme Nestlé Health Science, une filiale un peu particulière de Nestlé, qui ont une légitimité dans les maladies métaboliques, dans le diabète de type 2 et une légitimité auprès des patients et des professionnels de santé.
Vous avez déposé combien de brevets?
Alors, on a sur le premier produit, on a un brevet qui est dans plus de 60 pays. Et au total, la société, maintenant, c'est 6 brevets avec une étendue monde.
On reste ensemble et on continue à parler diabète aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Et si on pouvait prédire le taux de sucre pour éviter des complications aux diabétiques? C'est l'idée développée par ILO. A tout de suite.
C'est la journée mondiale du diabète et dans La France Bouge cet après-midi, on parle des innovations qui permettent de mieux encadrer et contrôler cette maladie. Et si vous êtes ou vous avez des personnes diabétiques autour de vous, appelez-nous pour poser vos questions à nos invités ou tout simplement pour témoigner au 3921. Vous pouvez également nous écrire, Raphaël, sur Twitter, hashtag Europe 1.
On n'a pas de boule de cristal et pourtant parfois ce serait quand même bien utile. Mais pour agir sur la santé, il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut être d'un grand secours. Bonjour Stéphane Bidet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur avec Nicolas de ILO. Je précise que ça s'écrit H-I-2-L-O. Votre ambition, prédire le taux de sucre dans le sang pour éviter aux diabétiques les complications.
Oui, alors tout à fait. Alors, ce n'est pas une ambition, on le fait. Ça fonctionne. On a prouvé.
Ambition de départ, en tout cas.
Ambition de départ, hein, c'est ambition de départ. La question de départ, surtout, pour qu'on est arrivé à développer cette intelligence artificielle, hein, nous, on s'intéresse aux diabétiques de type 1. Donc, comme vous l'avez bien présenté en introduction, il faut qu'ils monitorent et qu'ils régulent leur taux de sucre dans le sang. Cette fonction n'est plus assumée par l'organisme. Du coup, ils ont besoin de monitorer ce taux de sucre et d'anticiper en permanence s'ils peuvent sortir de la zone de confort. Vous avez une zone de glycémie normale dans laquelle, normalement, vous devez vous trouver. Et dès que vous dépassez cette zone, vous montez trop, vous êtes en hyperglycémie avec des complications moyen long terme potentiellement dramatiques. Hein. Amputation, cécité, je pense qu'on en parlera un peu après. Et si vous descendez trop bas, vous avez un défaut de sucre dans le sang. Donc l'organisme n'est plus alimenté, n'a plus de carburant. Et le risque est immédiat. Donc c'est la crise d'épilepsie, l'hospitalisation, etc. Donc ça, c'est le problème du patient au quotidien. Et plusieurs fois par jour, il se demande, est-ce que je suis à risque de faire une hyper ou une hypoglycémie? Et qu'est-ce que je dois faire pour éviter ce risque-là? Le problème, c'est que chaque patient est fondamentalement différent. Chacun a sa physiologie, ses habitudes qui lui sont propres. Donc il y a énormément de facteurs aussi qui viennent influer sur la glycémie. Et prendre tout ça en compte pour un cerveau humain, c'est hyper complexe, finalement.
Si vous en parlez si bien, c'est parce que vous connaissez bien le problème. Hein, votre épouse souffre de ce diabète de type 1. C'est aussi ça, l'avoir jonglé avec les éventuelles sorties, avec la manière dont il fallait s'alimenter, toujours vérifier, qui vous a poussé, vous et Nicolas, à quitter tous les deux vos emplois respectifs et à vous lancer dans l'aventure.
Ouais, effectivement,
on est en 2015.
On est en fin 2015, effectivement. Fin 2015, on commence à avoir l'idée. En regardant donc effectivement ma femme a un diabète de type 1, donc en voyant la façon dont elle gère sa pathologie et les problèmes qu'elle a rencontrés, mais après en regardant d'autres patients, parce que dans l'entourage, je pense que chacun on a des patients diabétiques autour de nous, on se rend compte que ils ont énormément de mal à anticiper ce qui peut se passer, parce qu'effectivement il y a beaucoup de facteurs et c'est très complexe à prendre en compte, et donc du coup ils sont plutôt en train de corriger un état, une hyper ou une hypoglycémie, plutôt que d'essayer de la prévenir. Donc l'idée c'était de comprendre pourquoi est-ce que les patients vivaient ça, et donc tout naturellement on s'est dit voilà. Ce qui leur manque, c'est cette boule de cristal, du coup, comme vous disiez, donc intelligence artificielle qui permet de prédire la glycémie à un horizon de temps assez important pour pouvoir avoir le temps de traiter et pour gérer aussi n'importe quelle phase de vie que le patient pourra avoir à vivre.
Et alors, qu'est-ce qu'elle fait, justement, pour ça, l'intelligence artificielle? Elle se base sur quoi? On lui donne tout un tas de données d'abord pour qu'elle nous connaisse?
Non, enfin, on a une période d'apprentissage d'une dizaine de jours par patient. Ça, c'est très important aussi dans notre système. On a un apprentissage par patient parce que chaque patient est fondamentalement différent. Donc du coup, pendant 10 jours, on va se connecter aux outils du patient. Donc on s'insère dans son écosystème. On ne lui demande pas de faire plus que ce qu'il ne fait aujourd'hui. Hein. Donc on récupère les données de son capteur de glycémie en continu. On récupère les données de son système d'injection, que ce soit un stylo connecté, une pompe à insuline. On va récupérer les données de repas. Donc c'est une estimation qui est faite à la louche pour le patient. Ça nous permet d'entraîner un modèle. Une fois que le modèle, donc l'intelligence artificielle a appris, elle est capable de prédire les variations futures de glycémie. En fait, elle est capable de faire un peu plus que ça. Elle est capable de reproduire ce qu'on appelle la réponse glycémique du patient. Donc de comprendre ce qui va se passer à 2 heures en fonction de ce que le patient est en train de vivre et du contexte dans lequel il évolue.
Marie ?
Donc là, vous récupérez beaucoup de données santé, ce qui fait rentrer votre produit dans une catégorie spécifique, réglementaire, de type produit médical.
Oui, on est un dispositif médical, effectivement, parce qu'on a une finalité médicale. On récupère la donnée de santé donc de patient, donc personnel. Mais aussi, le service qu'on va rendre va aider le patient à traiter sa pathologie. Et donc, c'est vrai que parler des produits, ce qu'on développe. Le premier produit, donc, on fait de la prédiction de glycémie. Mmh. Et on a déjà un essai clinique observationnel qui montre l'intérêt clinique de cette donnée-là pour le patient, pour gérer sa pathologie. Mais on est déjà en train de travailler sur la version d'après. Donc, le conseil thérapeutique personnalisé. Donc, on va montrer au patient ce qui va se passer. Mais en plus, on va lui dire ce qu'il devrait faire pour l'éviter. Donc, la dose insuline à s'injecter, l'action préventive.
Vous parliez d'essais cliniques, il y en a un nouveau qui est prévu. Et vous espérez, vous aussi, commercialiser rapidement, c'est-à-dire courant 2020, même s'il y a déjà des choses qui sont en cours avec des plateformes de télémédecine ou avec des laboratoires.
Oui, voilà, on discute pas mal, nous, avec des entreprises qui font du service à domicile pour patients diabétiques, des plateformes de télémédecine américaines notamment, des industriels du secteur, donc des pharma de l'insuline, des fabricants de pompes à insuline, etc. Et donc on a un essai clinique qui va arriver courant 2020 pour démontrer la performance et la sécurité de ce conseil thérapeutique. Mais on ne s'arrête pas là, parce qu'après, notre ambition, c'est d'aller sur le pancréas artificiel. On travaille avec 2 pointures mondiales aujourd'hui, le professeur Renard du CHU de Montpellier et le professeur Breton de l'Université de Virginie aux États-Unis, qui sont des précurseurs et des pointures dans le domaine du pancréas artificiel. Et c'est notre ambition aussi d'aider à optimiser les systèmes de pancréas artificiel actuels.
Elisabeth, une question.
On parle souvent de la charge mentale des patients atteints de diabète, notamment de diabète de type 1. Est-ce qu'avec votre solution, donc, qui permet de prédire le taux du sucre dans le sang, est-ce que ça va l'alléger?
Au
quotidien, ça va donner quoi?
Au quotidien, ce que ça va donner, c'est que au lieu que le patient soit dans le contrôle permanent pour comprendre où il est, si l'action qu'il vient de mener va dans le bon sens, est-ce qu'il a un risque, et surtout alléger aussi le patient, parce que ce qu'on voit, c'est des comportements très conservateurs. Quand un patient voit sa glycémie qui monte, il ne va pas s'injecter tout de suite de l'insuline. Il va attendre de voir jusqu'où elle va monter, parce qu'il ne sait pas jusqu'où elle va monter.
C'est là où vous intervenez?
C'est là où on intervient. D'accord. On va lui dire, ça va monter jusqu'à tel taux. Donc on va lui montrer la courbe et potentiellement ce qui peut se passer derrière. Donc là, il a une information.
Donc ça va l'alléger.
Qui lui permet d'estimer ce qu'il doit faire, effectivement.
Marie Saint-Madiras.
Et donc ça prendra la forme d'une application, d'un device à proprement parler, ou ça sera directement mis dans le téléphone, par exemple, via une app?
Une app, oui, ce sera via une app dans le smartphone du patient. Ouais. Okay.
On reste ensemble et on continue à parler diabète aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Comment aider les diabétiques à cicatriser quand ils se blessent? Un patch a été conçu pour eux, c'est Graféal. A tout de suite. On parle cet après-midi du diabète sur Europe 1, l'innovation au service de la maladie. D'ailleurs, on en parle souvent dans le dossier du jour de La France Bouge. Cet après-midi, c'est à l'occasion de la Journée mondiale du diabète. Si vous souhaitez réagir, appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter. On lira vos messages dans quelques minutes, Raphaël.
Oui, c'est important quand on regarde les chiffres, notamment de parler du diabète. Elisabeth, il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de diabète aujourd'hui dans le monde.
C'est une maladie qui prend des allures d'épidémie, avec 425 millions de patients dans le monde, dont 3,5 millions en France. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des solutions, et heureusement que vous êtes là. Parce qu'il y a une étude récente qui a été publiée dans la sérieuse revue américaine Diabetes Care, qui montre que près d'un tiers des patients diabétiques qui utilisent des injections d'insuline et ne se soignent pas correctement parce que c'est contraignant, parce qu'il faut mesurer plusieurs fois par jour sa glycémie, s'injecter régulièrement de l'insuline en fonction de ces mesures. C'est pour ça que, heureusement que vous êtes là, on a besoin de solutions pour cette population de plus en plus nombreuse.
Et ce qu'on ne sait peut-être pas aussi, c'est que chez nous, en France, chaque année, ce sont plus de 100 000 patients qui sont admis aux urgences avec des plaies. Une partie de ces malades vont ressortir avec une amputation. Vincent Bouchia, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de... Alors, j'ai dit Graféal parce que ça s'écrit G-R-A-P-H-E-A-L, mais on dit Graphil.
Voilà, donc c'est un mot valise qui en fait correspond à l'association de graphène, le matériau et healing de la cicatrisation. Voilà.
Comment vous est venue l'idée justement d'inventer ce patch, je dis patch, qui stimule la cicatrisation et renseigne aussi sur l'état de la plaie à distance?
Voilà, donc c'est avant tout un appareil de mesure, parce qu'on a réalisé aujourd'hui qu'il y avait très peu de moyens de connaître l'évolution d'une plaie. Et dans le cas du diabète, c'est bien sûr très important, puisque dans l'important de cas, il y a une évolution vers une amputation. C'est 10 000 amputations par an en France, 500 000 dans le monde. Donc aujourd'hui, on s'est dit, est-ce qu'on peut, par un moyen électronique, mesurer, sans interférer avec la cicatrisation, et si possible en la stimulant, mesurer une évolution et en particulier alerter en cas d'infection? Donc il n'y a pas d'instrument aujourd'hui sur le marché, et c'était notre ambition.
Comment est-ce que vous trouvez justement ce composant-là? Comment est-ce que vous arrivez à trouver qu'il va pouvoir agir sur cette cicatrisation et en même temps vous permettre de transmettre des données?
Voilà, donc ça, il faut voir que c'est des travaux qui sont issus de la recherche publique, donc du CNRS en l'occurrence, plus de 10 ans de recherche. L'idée de l'appliquer sur le pansement, c'est 5 ans, et c'est basé sur un matériau électronique issu de la microélectronique, qui est le graphène, matériau très fin, souple, transparent et non toxique, qu'on va mettre en contact direct avec le liquide qui est sur la plaie, avec la plaie elle-même. Et donc l'état de la plaie, en particulier son acidité, va influer sur la résistance électrique du matériau.
Ça fait un moment qu'on connaît ces propriétés, parce que je crois qu'on a trouvé les premières propriétés en 1947.
Alors le matériau est ancien.
Les premières recherches. Mais par contre, on savait que c'était quelque chose de miraculeux, mais on ne savait pas forcément l'utiliser.
Alors le problème, c'était qu'on ne savait pas l'isoler. Donc c'est depuis 15 ans en fait que ce matériau est maîtrisé dans le laboratoire, et depuis moins de 10 ans, on sait le produire en masse. Et c'est justement grâce à la possibilité de pouvoir l'intégrer, notamment sur plastique, sur polymère biocompatible, comme dans notre cas, qu'on va pouvoir développer ces procédés.
Donc c'est à partir du graphite, on est bien d'accord.
Voilà, donc c'est-à-dire
ce qu'on a dans nos crayons à papier.
Tout à fait, c'est la même chose que la mine de crayon, si vous voulez, mais là on va en prendre une toute petite couche atomiquement fine qu'on va intégrer sur plastique, connecter et coupler à une électronique de mesure pour pouvoir la lire avec un smartphone.
Parce qu'il est extrêmement conducteur.
Il est très conducteur, mais mieux que ça, en fait, sa conductivité va dépendre de ce qu'il y a dessus, et en l'occurrence de l'état de la plaie.
Et donc ça a une action et sur la plaie et sur la transmission, la rapidité de transmission des données.
Alors oui, c'est un matériau qui effectivement est prometteur pour aller après le silicium compléter, améliorer les performances des ordinateurs. Mais ici, on l'utilise comme capteur pour en fait traduire l'information de la plaie en une information lisible.
Marie Sarmadiras.
Il me semble que votre patch permet de simuler également la cicatrisation. Est-ce le même matériau qui simule la cicatrisation ?
Absolument, c'est le même matériau, et ça c'était totalement inattendu, c'est que nous étudions les propriétés électroniques, et en faisant des cultures cellulaires sur ce matériau, on s'est rendu compte que, de par sa souplesse, sa neutralité, son aspect carboné, en fait, il y avait une stimulation des cellules en culture sur ce matériau.
Elisabeth, on s'intéresse à ce qui se passe en ce moment en France au niveau du diabète. Vous avez trouvé, je crois, une étude qui a lieu en ce moment,
avec Diabeloop, le français Diabeloop qui mène une étude en ce moment à l'hôpital Necker avec une dizaine d'enfants âgés de 6 à 12 ans avec ce système Diabeloop. Je vous rappelle ce que c'est. Nous les avions reçus l'année dernière, notamment pour les trophées de l'avenir européen. Depuis 2015, cette start-up existe. Elle travaille sur la conception d'un pancréas artificiel. C'est une forme c'est une pompe en forme de patch accolée sur le bras avec un capteur sur l'abdomen et le tout est relié sur un smartphone. Donc on en termine avec les piqûres quotidiennes, avec le dosage d'insuline et la machine s'auto-régule grâce à cette machine Diabeloop. Le système fonctionne tout seul.
On va revenir à Graphil. Comment ça se passe quand je mets le patch, au bout de combien de temps je vais voir apparaître la cicatrisation?
Donc en fait, le patch est destiné à se mettre à l'intérieur du pansement. C'est compatible avec tout pansement. Donc il s'agit juste d'une petite pastille qui sera sur la plaie, qui va mesurer en continu les données de la plaie. Et l'infirmier ou le patient lui-même pourra venir télécharger ces données et les analyser avec une application smartphone à distance à la manière d'un paiement sans contact.
Vous avez fait des tests, hein, évidemment, entre 2016 et 2018. Vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était extrêmement souple, ça s'adaptait vraiment à l'épiderme.
Voilà, l'idée, c'est de faire vraiment... Alors, il y a un procédé breveté pour le produire en masse et garder les propriétés électroniques sur un matériau très souple. Donc, on le dépose sur un polymère.
Donc ça permet de combiner les deux et d'avoir cette souplesse, c'est-à-dire que si on le met sur le bras, on ne le sent pas.
Voilà, et non seulement on ne le sent pas, mais il ne doit pas interférer de manière négative avec le processus de cicatrisation. Donc là, il s'agit vraiment de mettre une électronique, non pas sur la peau, mais à l'intérieur de la plaie. Ce qui
et quelle que soit la taille de la plaie?
Alors oui, on peut donc venir mettre sur toute la plaie si nécessaire, ou simplement sur un bord si c'est compatible avec simplement une mesure fine.
Vous cherchez à faire des levées de fonds en ce moment, une levée de
voilà.
fonds.
Donc ce projet a été soutenu pendant longtemps par le CNRS de Grenoble et on a créé la société.
Oui, parce que vous êtes basé à Grenoble.
C'est ça, et on est même hébergé par le laboratoire. Donc moi j'ai quitté mon laboratoire pour faire sortir cette technologie du labo et créer ma société. Donc on est encore hébergé pour un moment, mais là on a terminé le préclinique, il va falloir commencer les premiers essais chez l'homme. Et donc, on a besoin effectivement de moyens pour ça.
Vous avez chiffré ces moyens? Vous savez de combien vous avez besoin pour pouvoir véritablement le développer?
Au total, ça sera un dispositif médical, donc avec des essais cliniques. C'est une somme importante sur 3 ans. Pour démarrer, il nous faut 350 000 euros de fonds privés pour pouvoir amorcer et faire les premiers essais chez l'homme.
On reste ensemble et on vous attend bien sûr au 39-21.
Il est 13h37.
Europe 1.
On parle diabète aujourd'hui et innovation sur Europe 1 avec vous, 39-21 et Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge. A tout de suite.
Cet après-midi dans la France bouge, on parle des innovations qui aident notamment à contrôler le diabète et on en parle, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Sébastien Pelletier, président du directoire de Valbioti, Stéphane Bidet, président et cofondateur d'ILO et Vincent Bouchia, PDG de Graphil. Notre coach aujourd'hui, c'est Marie Sarmadiras. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. On a déjà quelques questions sur Twitter, Céline.
Oui, on a notamment Sabrina, hashtag Europe 1, qui nous dit « Ma maman est diabétique, insulino-dépendante depuis l'âge de 9 ans. Ses enfants, dont moi-même, n'en sommes pas atteints. » mais ses endocrinologues lui ont toujours dit que ses petits-enfants seraient à surveiller, que la maladie pouvait sauter une génération. Est-ce que c'est vrai?
Ah, qui a la réponse? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous aider à répondre à comment hein
Sabrina.
Sabrina.
Alors...
Stéphane.
Non, puisque... ouais. On en parlait juste avant.
Hors antenne.
Ouais, voilà. Hors antenne, effectivement. Je n'ai pas de réponse vraiment à cette question-là. Quand on questionne les experts, il n'y a pas forcément de facteur héréditaire. Enfin, moi-même, ma femme, on a eu deux enfants. Chaque enfant, on évalue un risque. Il est très, très faible, ce risque-là. C'est un dérèglement du système immunitaire qui peut survenir pour diverses raisons, quoi. Donc du coup, est-ce que c'est les petits-enfants ou ses enfants, elles, du coup, ont un risque de développer un diabète de type 1. Je ne suis pas convaincu, mais ouais. Après,
quoi qu'il en soit, il faut rester vigilant à partir du moment où il y a un diabétique.
Oui, il faut rester vigilant, plus parce que c'est une pathologie qui prend de l'ampleur. Il y a de, enfin voilà, on
oui,
en parle
qui est très
aussi.
Invasive hein, dans le quotidien.
Très invasive, c'est une pandémie quasiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut monitorer et s'assurer, surtout un enfant. Quoi. Enfin, chez un enfant, c'est terrible à gérer. Hein.
On a un appel au 3921, Sigrid qui est en Picardie. Bonjour Sigrid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Votre père est diabétique, je crois.
Oui, tout à fait.
Et quel est le problème?
On l'a découvert rapidement. Il est devenu insulino-dépendant 3 fois par jour.
Oui.
Donc nous, les enfants, les deux, on s'est fait dépister et on se suit. On fait très attention. Et j'ai des enfants aujourd'hui, je fais très attention aussi. Et ma question est... Et que j'ai essayé de faire un petit peu attention à tout ce que j'achète. Et je m'aperçois que c'est très, très difficile de trouver des aliments qui soient sans sucre rajouté. Je vous prends un exemple. Chair à saucisse. Oui. Pour moi, c'est que de la viande. Et bien, dedans, on vous rajoute du sucre.
Mais tous les produits
on achète de la moutarde. On rajoute du sucre. Enfin, oui. Il y a plein d'aliments comme ça. C'est dramatique. Et quand je vois qu'il y a 3,5 millions... de diabétiques en France, c'est bien de travailler avec des laboratoires. Pancréas artificiel, capteur de glycémie, je trouve ça très très bien. Mon père n'a pas pu bénéficier de tout ça. Mais que fait-on au niveau des industries alimentaires
pour
arrêter de nous rajouter du sucre dans tout ce que nous mangeons?
Alors, vous avez,
c'est dramatique.
On va peut-être répondre parce que l'année dernière, on avait fait une émission sur le diabète, effectivement. Il y a hein, des
épiceries
qui se sont
spécialisées pour les personnes diabétiques, évidemment.
Il y en a à Paris, mais sur lesquelles
ça commence
on peut
à se développer
notamment
en Provence.
Commander en ligne. Donc, on essaiera de vous donner les coordonnées, Sigrid, peut-être que ça va vous changer votre quotidien. Merci en tout cas pour votre appel. On a Dominique dans l'Ain qui nous a appelé aussi au 3921 et qui nous dit « J'étais diabétique de type 2, je ne le suis plus et je voudrais en parler ». Vous nous avez dit tout à l'heure justement, Sébastien Pelletier, dans la quasi-majorité, c'est irréversible. Il reste quand même quelques personnes qui peuvent revenir en arrière.
Oui, c'est tout à fait, notamment quand on est au premier stade de développement du diabète de type 2 et qu'on arrive à changer son mode de vie. Le changement du mode de vie, que ce soit alimentaire, couplé à l'activité physique, hein, pas forcément l'activité physique et sportive, c'est quelque part le meilleur remède pour le diabète, mais pour plusieurs pathologies. La difficulté, c'est que changer son mode de vie sur le long terme, c'est pas si évident que ça. Et que malheureusement, il y a peu de personnes qui arrivent à changer leur mode de vie sur le long terme.
On a une question de Marc sur Twitter, Céline.
Oui, qui nous dit « Le problème du diabète est souvent une angoisse pour les parents d'enfants diabétiques. Est-ce que vos solutions, messieurs, permettent de réduire cette angoisse ?»
Ah, ouais, c'est vrai que quand on entend les chiffres que donnait Elisabeth tout à l'heure concernant les enfants, c'est extrêmement affolant.
Ouais, non, c'est extrêmement affolant et je comprends parfaitement l'angoisse. Hein. Moi, déjà, rien que dans mon quotidien, c'est compliqué. Les problèmes, c'est la nuit surtout. La crise d'épilepsie en plein milieu de la nuit, comment on fait pour gérer cet aspect-là? Donc, l'enfant est dans la chambre d'à côté, donc c'est un stress permanent pour les parents, mais pour n'importe quoi. Un enfant qui va à un goûter d'anniversaire, il va prendre du gâteau, bon, il doit gérer lui-même ou les gens qui sont là gérer son injection d'insuline, c'est compliqué. Donc oui, nos solutions, elles sont là pour ça. Là, dans le cas d'Ilo, la solution permettrait de prédire à tout moment ce qui peut se passer et donc de montrer qu'il y a un risque. Donc la nuit, d'alerter assez longtemps à l'avance s'il y a un risque, d'éviter que le parent se lève toutes les 5 minutes pour aller vérifier la glycémie de son enfant et contrôler que tout va bien. Donc là, il a une alerte, il sait. Et puis après, on lui donne le conseil aussi pour éviter ce qu'on prédit, quoi.
Elisabeth, le traitement du diabète passe aussi par des plateformes numériques. Je crois que vous en avez trouvé quelques-unes.
Oui, bah, évidemment, face à cette charge mentale que demande le traitement, il y a des industriels qui ont inventé aussi des solutions connectées. Il y a 1 million d'utilisateurs, par exemple, en France, des stylos à insuline. C'est pour éviter les 4 à 5 injections par jour. Il y a 70 000 utilisateurs de pompes à insuline aussi, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, mais il y a les pompes à insuline qui permettent de remplacer les injections quotidiennes. Par exemple, en septembre, il y a 2 des principaux producteurs d'insuline, Sanofi et Novo Nordisk, qui ont signé des partenariats avec des stylos connectés. Le premier avec Abbott et le second avec Medtronic. Abbott, c'est une entreprise américaine, mais on en parle quand même.
Medtronic, c'est français.
Et Medtronic, c'est français, exactement.
Merci, messieurs, d'être venus nous parler diabète et solutions et innovations, parce que ce que vous faites, évidemment, au quotidien est important pour la santé des patients français et à travers le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 13h46. Merci.
Europe 1.
Restez avec nous, on va remonter le temps ensemble jusqu'en 1852. C'est à cette époque qu'est née la Maison Fouquet, c'est l'entreprise qui va bien. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Fouquet. Bonjour Catherine Chambaud.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de ce chocolatier confiseur qui est dans votre famille depuis 5 générations, si j'ai bien compté. C'est Louis Fouquet qui a créé l'entreprise en plein cœur de Paris. On est en 1852.
Voilà, en 1852, il ouvre la boutique de la rue Lafitte dans le 9e arrondissement. Au début du siècle, du 20e siècle, mes ascendants, donc mes arrière-arrière-grands-parents, rachètent la boutique et donc commence la grande histoire de la Maison Fouquet.
Mais au départ, c'est d'abord de la confiture, Fouquet.
Voilà, ils sont avant tout confituriers. Au tout début, confituriers et épiciers fins. Et puis, avec les différentes générations, on a un petit peu évolué dans les produits. On est devenu aujourd'hui un vrai chocolatier avec quand même une petite gamme de confiserie assez intéressante et très exclusive.
Votre lien de parenté avec Louis Fouquet, c'est des cousins germains
éloignés. La vraie ascendance, c'est à partir du début du siècle. Là, c'est vraiment arrière-grands-parents. Et alors là, on descend jusqu'à nous, c'est-à-dire moi et mon frère Frédéric, avec qui je gère la société. Et là, nous sommes la 5e génération.
Pourquoi vos arrière-grands-parents investissent dans l'entreprise de Louis Fouquet? Qu'est-ce qui leur fait envie à ce moment-là?
Ils étaient un peu eux-mêmes confituriers. Ils avaient une petite boutique de confituriers. Il s'est trouvé que... Ils ont décidé d'élargir un peu leur petit commerce. Et donc, ils sont tombés sur cette boutique qui, à l'époque, le 9e arrondissement, d'ailleurs, c'est revenu maintenant, était un quartier très prisé et où il y avait beaucoup de boutiques intéressantes.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la boutique est obligée de fermer.
Alors,
il y a eu un arrêt.
L'origine est certes la rue Lafitte, dans le 9e arrondissement, boutique qui existe encore aujourd'hui.
Oui.
C'est là où se trouvent les ateliers. Donc vraiment, on a fait quelques rénovations, mais la boutique est encore là. Ensuite, en 1928, on ouvre une boutique rue François 1er. Et dans les années 30, assez euphorique, 2 boutiques supplémentaires qui malheureusement ne survivront pas à la guerre de 39-45. Donc aujourd'hui, nous avons 2 boutiques sur Paris.
Vous dites, aujourd'hui, on est chocolatier avant tout.
On est chocolatier parce qu'on a évolué, parce qu'être ancien, c'est pas seulement rester dans ce qu'on sait faire. Et on est certes traditionnel, mais on essaie toujours d'essayer de trouver de nouveaux produits et d'être assez créatif. Et c'est vrai que la demande nous a un peu poussé vers le chocolat. Donc on a une gamme de chocolat très large, certes, mais on a gardé la confiserie parce que historiquement chez Fouquet, traditionnellement, on a un savoir-faire assez unique pour fabriquer des confiseries.
Alors, votre spécialité, arrêtez-moi si je me trompe, ce sont les chocolats pralinés à base de fruits secs.
Voilà. Alors, les chocolats pralinés à l'ancienne, ça veut dire...
C'est quoi pralinés à l'ancienne?
Pralinés à l'ancienne, c'est fabriqué dans des bassines de cuivre. Ça veut dire que tout est fait de la fabrication initiale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intérieur, jusqu'au produit fini, que d'ailleurs vous avez devant vous.
Qui est ici?
C'est dans la boîte carrée à côté de vous. Donc, tout est fait artisanalement. Donc, cuisson en bassine de cuivre, étalage, broyage manuel... Découpe manuelle, enrobage manuel, voilà, et après pour finir dans nos boîtes.
Dans les années 80, la fabrication change.
C'est à ce moment-là que
des laboratoires plus spacieux, et c'est à ce moment-là que se fait le changement.
Voilà, parce que la confiserie est un peu moins prisée, et puis parce qu'on a envie d'évoluer aussi vers des choses un peu nouvelles.
Marie, notre coach.
Vous parliez de la réinvention que vous avez eue sur le produit en vous centrant sur les chocolats. Est-ce que vous avez une réinvention de votre circuit de distribution, de votre manière de toucher votre marché? L'export, par exemple.
Oui, alors déjà, bon, on a créé un site internet, donc déjà, ça ouvre pas mal, parce qu'on a une clientèle très parisienne. J'avoue, on a deux boutiques parisiennes, donc c'est plus difficile pour la province, mais on a ce site internet et on distribue des produits à l'étranger par l'intermédiaire d'acheteurs. Donc, on est surtout présent dans le Moyen-Orient parce qu'ils sont très friands de nos produits, assez sucrés, notamment la pâte de fruits dont vous avez un modèle là, et puis les fruits confits, les choses comme ça.
Et vous parliez de votre site e-commerce, vous voyez vraiment une forte croissance des ventes par ce canal-là ou ça reste quand même avant tout vendu par les boutiques ?
Ça reste physique. Avant tout vendu par les boutiques, très clairement. Après, c'est vrai qu'on a un pic, je suis en plein pic de fabrication, donc
pour
c'est
la période de Noël,
évidemment. Donc là, à partir du début du mois de novembre jusqu'au 15 janvier, c'est vraiment notre saison, notre période et c'est là que la plupart de la fabrication, de la production dans nos ateliers se fait. Le site internet marche vraiment à cette période-là. Dans l'année, on a quelques commandes. Voilà.
Elisabeth ?
Au-delà du chocolat, je me souviens d'excellentes tisanes chez Fouquet.
C'est vrai. On a, disons qu'on est chocolatier confiseur et on a une petite gamme d'épiceries fines. Parce que justement, c'est sympathique de temps en temps de trouver une confiture, un miel, une moutarde. Voilà. Donc épicerie sucrée salée. Et dans cette partie d'épicerie sucrée, c'est vrai qu'on sélectionne des tisanes qu'on propose à notre clientèle.
Je crois qu'Elisabeth a eu peur de la discussion sur le diabète et se tourne désormais vers la tisane.
Alors voilà. Justement, moi j'ai une autre question. Est-ce que c'est vegan ? Est-ce que vous avez des produits vegan ? Est-ce que vous travaillez une gamme ?
On essaye. Alors on est passé déjà à quelques produits bio. Oui. Parce que ça, de toute façon, c'était obligatoire, c'est dans l'air du temps. Maintenant, c'est vrai que c'est compliqué. On a parfois, je veux dire, un produit, le chocolat tel que vous le voyez là, c'est pas un produit justement. C'est une couverture, c'est du sucre, c'est des fruits secs, c'est voilà. Donc c'est compliqué d'arriver à avoir un ensemble de produits qui fasse qu'un produit final est comme on le souhaite. Donc on essaye de travailler, on est très vigilant, voilà.
Est-ce que vous savez combien de chocolats sortent de chez vous, du laboratoire tous les jours ? Est-ce qu'on a une idée de ça ?
Ah ben ça dépend.
Ça
dépend. On peut faire en ce moment...
Qu'est-ce que vous faites en ce
300
moment ?
300 kilos par semaine, voilà. Et puis on peut faire au mois de juin 5 kilos. Voilà, donc
ça,
c'est vraiment c'est très très périodique.
C'est vraiment, la saisonnalité qui prime.
Mais incroyablement, oui. Le chocolat, de toute façon, malheureusement, c'est saisonnier.
Vous avez le label entreprise du patrimoine vivant, je l'ai dit tout à l'heure, 1852.
1852, label entreprise du patrimoine.
Ça change quoi ? C'est important pour vous ?
C'est important parce que déjà, ça montre, si on a été labellisé, c'est quand même qu'on a une histoire, on a un savoir-faire, on a une tradition. Donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, qu'on innove aussi, parce que vivant, ça veut dire aussi innover, être créatif. Donc, ce n'est pas seulement rester dans ce qu'on sait faire et, voilà, et ne rien faire. Et puis, c'est aussi tout un groupe d'entreprises qui, parfois, peuvent faire des partenariats, ou voilà, c'est intéressant. Et puis, auprès de la clientèle étrangère, c'est assez important. Voilà.
Merci beaucoup d'être venu nous raconter une partie de l'histoire de la maison
Fouquet. Je vous en prie, c'est un plaisir. Je vous invite
à
déguster les produits.
Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à Marie Sermadiras qui était notre coach aujourd'hui. Elisabeth Céline, rendez-vous demain, midi, sur Europe 1.